Voici une question dont la réponse pourra transformer votre vie. Comment pouvons-nous découvrir la vraie joie? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui pourra vous remplir d'une joie éternelle. Aujourd'hui, à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je suis déjà dans la joie. Juste à penser au sujet qu'on va aborder au cours de cette émission, suite à nos questions. Les voici donc. Y a-t-il des images dans l'Ancien Testament qui démontrent comment Dieu peut sauver une personne dans les temps modernes? Y a-t-il des gens qui ne sont pas des pécheurs? Y a-t-il un moyen par lequel un pécheur peut se réconcilier avec Dieu? Qu'est-ce qu'un pécheur doit faire pour toucher le cœur de Dieu? Que signifie l'expression « naître de nouveau » Pourquoi est-ce qu'un pécheur doit s'empresser d'accepter Jésus comme sauveur? Comment est-ce qu'on peut découvrir la véritable joie? Demeurez à l'écoute, le pasteur Régent Joly va nous enseigner les Saintes Écritures dans quelques instants. Je crois que les réponses qu'il a trouvées dans la Bible doivent déjà mettre un sourire sur ses lèvres. Je sais qu'il nous prépare un message bien encourageant. Alors préparons-nous à le recevoir comme venant de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui va nous parler par sa bouche. Prions. Ô Seigneur, oui, on sait que c'est toi qui vas nous parler aujourd'hui par la bouche de ton serviteur. Dispose nos cœurs à bien recevoir ton message. Aide-nous à le mettre en pratique à chaque jour de notre vie, pour ta gloire, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que le roi Assuérus a demandé à Aman de lui dire comment il fallait s'y prendre lorsque le roi voulait honorer une personne. Aman crut que le roi désirait l'honorer, alors il lui suggéra de revêtir l'homme d'un vêtement royal, de lui remettre une couronne et de le promener dans les rues sur le cheval du roi, un messager criant devant lui que l'on faisait ainsi pour ceux que le roi veut honorer. Aman subit la pire humiliation de sa vie lorsqu'il dut faire cela pour Mardoché. Il était venu chercher l'autorisation d'exécuter Mardoché et il dut l'honorer au nom du roi. Ses amis et sa famille savaient qu'il avait fait ériger une potence pour y pendre Mardoché. Puis des serviteurs vinrent chercher Aman pour assister au festin de la reine. À ce festin, Esther apprit au roi qu'elle était une juive et que Aman avait signé en son nom un décret ordonnant le génocide de son peuple. Une loi portant le sceau du roi étant immuable, cette loi condamna aussi la reine Esther. Le roi fit pendre Aman à la potence qu'il avait construite pour Mardoché. Nous avons vu la main de Dieu derrière tous ces événements qui se produisaient au moment opportun. De plus, nous nous sommes rappelés que nous récoltons ce que nous semons. Ce fut le cas d'Aman, de Jacob, de l'apôtre Paul. Maintenant, voyons comment le roi sauvera le peuple de Dieu. En effet, le décret émis pour le génocide du peuple juif ne peut être annulé ou révoqué selon la loi des Mèdes et des Perses. Un document qui porte le sceau du roi est immuable. Chers amis, débutons notre lecture. Esther chapitre 8, versets 1 et 2. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau, qu'il avait repris à Aman, et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Pour la première fois, Esther révèle que Mardoché est son père adoptif. c'est le refus de Mardoché de se prosterner devant Aman qui lui servit de prétexte pour faire émettre le décret horrible contre les Juifs. Nous voyons que le roi prête facilement son sceau à d'autres personnes. Cet anneau conférait une puissance à celui qui l'avait en main. Un décret portant le sceau devenait immuable. C'est cet anneau qu'Aman a utilisé pour sa tentative de faire périr les Juifs. Assuérus le lui avait passé parce qu'il était premier ministre. C'est ce même anneau qui se retrouve maintenant entre les mains de Mardoché. Elle est entre bonnes mains présentement, mais le roi semble imprudent en la passant à d'autres. Verset 3. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Gagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Esther implora le roi pour son secours, mais le décret immuable ne pouvait pas être modifié. On ne pouvait rien y retrancher, rien y ajouter, ni l'abolir. Le roi tend son sceptre à Esther. Il est gracieux envers elle. Versets 4 à 6. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, « Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour évoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata, la Gagite, et écrite par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race ?» Esther fait voir clairement que la condamnation d'Aman est inutile si rien n'est fait pour son peuple. Il faut faire quelque chose pour le sauver. Verset 7. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. » C'est vrai que le roi a donné la maison de Aman à Esther et à Mardoché, mais cela ne sauvera pas les Juifs. Les Juifs, autant en péril maintenant qu'avant la pendaison d'Aman. Poursuivons, verset 8. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Mardoché ne perd pas une seule seconde. Verset 9. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit. Suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs de 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. Encore une fois, tous les scribes sont convoqués et ils doivent faire des copies du nouveau décret dans toutes les langues du royaume. Verset 10 à 12. On écrivit au nom du roi Assuérus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers, ayant pour monture des chevaux et des mulets, nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils soient, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr, avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage, et cela en un seul jour dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Le premier décret n'est pas modifié. Il ne peut l'être. Il est toujours valable. Mais un autre décret est rédigé et publié comme le fut le premier décret. Il est signé par le roi. Toute la puissance militaire du roi ainsi que ses officiers sont maintenant rangés du côté des Juifs. Maintenant, la situation est entièrement renversée. Lorsque ce nouveau décret est émis, les Juifs sont heureux et dans une très grande joie. Nous pouvons imaginer toute l'agitation cette nuit-là. Les scribes ont dû travailler toute la nuit après qu'Esther eut plaidé la cause de son peuple auprès du roi. Un nouveau décret est maintenant rédigé, et il porte le sceau du roi. Le royaume comprenait des peuples qui parlaient de nombreuses langues. Tout le personnel disponible fut mis à la tâche, et l'on copia le décret des centaines de fois dans plusieurs langues. On utilisait tous les moyens de communication disponibles à l'époque. Les messagers partirent monter sur des chevaux, des mulets ou des chameaux vers le désert d'Arabie, vers l'Inde et même vers l'Afrique. Ils suivirent aussi le Tigre et l'Euphrate afin d'atteindre toutes les villes du croissant fertile. Les messagers s'arrêtèrent dans toutes les villes et tous les patelins. Ce nouveau décret était un moyen de salut pour les Juifs. S'ils recevaient le message à temps et s'ils y croyaient, ils pouvaient sauver leur vie. Le salut présenté de façon imagée. Oui, chers amis, nous sommes devant une des plus belles images de notre salut que l'on peut trouver dans les Saintes Écritures, mais elle est rarement utilisée de nos jours. Cependant, c'est Dieu qui nous a donné cette image. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Je tiens à le rappeler, à préciser que nous sommes tous des pécheurs. Dieu a émis un décret qui dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Ce verset ne s'applique pas seulement à la lie de la société et aux grands criminels, mais il s'applique aussi à nous tous. Car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Citation de Romains chapitre 3, verset 23. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Ésaïe, chapitre 64, verset 6. Chers amis, Dieu ne peut pas nous sauver parce que nous sommes parfaits, puisque nous ne le sommes pas. Cependant, Dieu ne peut pas baisser ses standards de sainteté et nous accepter malgré notre imperfection. Nous faisons partie d'une race déchue et perdue. L'humanité se trouve donc dans une situation difficile. L'humanité doit faire face à ce problème. Nous aimons penser que le problème est ailleurs, dans le cœur d'une autre personne, mais il est dans notre propre cœur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le monde est pollué, et je ne parle pas seulement des rivières et de l'air, mais du cœur humain. Dieu doit juger les êtres humains. Les hommes sont pécheurs, et ils ont besoin d'un sauveur. De nombreuses personnes n'aiment pas entendre cela. De nombreuses églises sont devenues libérales, et le libéralisme s'appuie sur la faiblesse. Les hommes qui prêchent n'ont pas le courage de dire aux auditeurs qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Bien entendu, ce message n'est pas populaire. Nous préférons toujours entendre des paroles flatteuses, mais c'est le décret de Dieu et il est immuable. L'ignorer, c'est poursuivre notre route vers la perdition éternelle. Cependant, Dieu nous offre une réconciliation. Nous louons Dieu de ce qu'un autre décret fut émis du trône éternel. Le voici ce décret, que nous retrouvons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes des ambassadeurs auprès du monde contemporain. Un ambassadeur est le représentant de plus haut rang envoyé dans un autre pays pour représenter le sien. L'ambassadeur représente un pays amical et un gouvernement amical. Notre Dieu est amical. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour que Dieu se réconcilie avec vous. Il a déjà fait ce qu'il fallait. Le Seigneur Jésus est mort pour vous et moi. Nous ne pouvons rien ajouter au sacrifice de Jésus-Christ. Il n'y a vraiment rien à y ajouter. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. précise la Bible, entre autres Colossiens chapitre 2, verset 10. Dieu est touché par notre état. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour toucher le cœur de Dieu. Il est déjà touché par notre état, parce que Jésus a déjà pris sur lui la peine méritée par nos péchés. Maintenant, nous pouvons dire, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains chapitre 8, verset 31. Dieu est de notre côté, mes amis. Un décret est maintenant en vigueur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Actes chapitre 16, verset 31. Si vous placez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvé. C'est ce que Assuérus a fait pour les Juifs. S'ils croient le deuxième décret et agissent en conséquence, ils seront sauvés d'une mort certaine. Il faut naître de nouveau. Dieu a une façon de sauver les pécheurs. Nous ne sommes pas assez bons pour entrer au ciel et nous ne le serons jamais. Dieu doit faire un travail en nous. Vous et moi devons venir au Seigneur et accepter le salut qui nous propose un vêtement de justice parfaite. Le Seigneur Jésus nous donne sa justice. Nous ne pouvons pas améliorer ce plan de salut. Dieu ne peut pas nous accepter au ciel tel que nous sommes. Il faut que nous naissions de nouveau. C'est ce que le Seigneur a expliqué à Nicodème, un chef des Juifs. Il faut que vous naissiez de nouveau. Jean chapitre 3, verset 7. Et dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, Dieu élabore sur le sujet. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Les gens naissent de nouveau et leur vie sont transformées lorsqu'ils entendent et croient la parole de Dieu. Je ne demande pas aux gens de consacrer leur vie au Seigneur comme s'ils avaient quelque chose à lui offrir. Pensez-vous qu'il veut de votre vieille nature, mes amis? Il veut vous donner une nouvelle vie. Il veut vous régénérer. Il veut vous sauver. Nous devons croire le décret de Dieu. Les Juifs du temps d'Esther devaient reconnaître qu'un décret les avait déjà condamnés et qu'ils seraient détruits. Ils devaient croire que leur roi était de leur côté et qu'il avait émis un nouveau décret. Nous aussi, nous devons croire que le roi des rois est de notre côté. Je suis ambassadeur de Jésus-Christ et en son nom je vous dis, soyez réconciliés avec Dieu. Citation de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Il est réconcilié avec vous. À vous maintenant d'accepter ce qu'il vous offre, c'est-à-dire sa réconciliation. Donc, le deuxième décret du roi fut promulgué. Si nous revenons dans le livre d'Esther, chapitre 8, lisons ensemble les versets 13 et 14. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers montés sur des chevaux et des mulets partirent aussitôt et en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Chers amis, c'est aujourd'hui le jour du salut. Oui. Maintenant, il est nécessaire de se hâter. Et ça l'est encore aujourd'hui. Je ne veux pas vous faire peur, mais aujourd'hui, vous entendez peut-être l'Évangile pour la dernière fois. Et vous n'aurez pas d'autres occasions d'accepter le Seigneur Jésus comme votre Sauveur. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. La seule fois que Dieu vous demande de vous hâter, c'est lorsqu'il est question de votre salut. D'accepter son Fils en tant que Sauveur. Verset 15. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Mardochée est beaucoup plus beau avec ses vêtements royaux qu'avec le sac qu'il portait il y a peu de temps. Son apparition dans la ville ajoute à la joie suscitée par le deuxième décret du roi. Notez le contraste entre les deux décrets. Celui d'Aman provoqua de la tristesse, mais celui du roi une grande joie. Chers amis, c'est en venant à Jésus-Christ que vous découvrez la véritable joie. Le salut peut vous faire éprouver une joie profonde. Vous pouvez dépenser une fortune dans un club de nuit et vous pourrez avoir du bon temps. Si vous n'êtes pas sauvé, vous verrez un spectacle, vous boirez et vous mangerez comme un glouton. Oui, vous aurez du bon temps au cours de la soirée, mais pas le lendemain. Vous vous sentirez mal dans votre peau et vous ne connaîtrez pas ce qu'est la véritable joie. C'est en venant à Jésus-Christ que vous découvrez la véritable joie. Poursuivons la lecture, verset 16. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dieu nous propose le bonheur. Jésus est notre source de joie. Il est la joie, l'allégresse et la gloire du monde. Ce qui rend sa dignité à un pécheur, c'est de recevoir Jésus-Christ, le Sauveur, qui est Dieu fait chair et qui est mort pour lui. Un pécheur peut terminer son pèlerinage sur terre en marchant la tête haute, tout en se réjouissant. Nous avons besoin de nous réjouir. Êtes-vous dans la joie aujourd'hui? Cher ami chrétien, éprouvez-vous cette joie qui vient du fond de votre cœur. Si vous n'êtes pas rempli de joie, venez au Seigneur et il vous donnera ce qu'il vous faut pour réjouir votre cœur. Jésus-Christ est la source de toute joie, de la véritable joie. Verset 17. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent Juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Par crainte, des Juifs, beaucoup de personnes, se convertirent au judaïsme. Ces personnes acceptèrent la religion juive. La nation d'Israël fut un meilleur témoin dans le monde que nous le pensons en général. Mes amis, avez-vous échappé au décret qui vous condamne? Revoici la question. Elle est primordiale. Mes amis, avez-vous échappé au décret qui vous condamne? Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 6, verset 23. Ce verset résume les deux décrets de Dieu qui nous touchent particulièrement. La première partie dit que nous sommes condamnés. En effet, nous sommes tous pécheurs et notre conscience nous le confirme. Le salaire du péché, c'est la mort physique, mais aussi la mort spirituelle, c'est-à-dire l'éternité en enfer, loin de Dieu. La deuxième partie du verset résume le deuxième décret qui nous permet d'échapper à cette mort. Oui, chers amis, si nous acceptons le salut que Dieu nous propose en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous recevons gratuitement la vie éternelle. Je n'ai plus de soucis à me faire. Je peux avoir l'assurance d'être au ciel pour l'éternité. Mes œuvres et mon observation des commandements ne peuvent pas me procurer une entrée au ciel, car ils ne sont pas parfaits. De plus, je ne saurai jamais si j'ai fait assez d'œuvres, car la Bible ne donne aucun moyen de le savoir. Je n'ai pas de barème. Elle dit plutôt que mes œuvres sont souillées comme un vêtement sale. Elles ne sont pas toujours faites avec un motif pur. Donc, Dieu qui nous aime nous propose un moyen plus sûr. Le Seigneur Jésus-Christ nous rachète par son sacrifice à la croix. Si toutefois nous acceptons gratuitement ce cadeau, nous entrons au ciel avec les mérites de Jésus-Christ et non les nôtres qui sont insuffisants. Chers amis, avez-vous accepté, reçu le don de Dieu? Pour la prochaine émission, lisez Esther, les chapitres 9 et 10.
Merci Régent. Mes amis, êtes-vous dans la joie? Moi je le suis, après un tel message de la parole de Dieu. Si je n'étais pas sauvé, je crois que j'accepterais tout de suite le salut que Dieu donne à ceux qui placent leur confiance en Jésus seul pour le recevoir. Je reconnaîtrais que je suis une pécheresse perdue, je lui demanderais de me pardonner, je me repentirais et je demanderais à Jésus de me sauver, de me donner la vie éternelle. Mais j'ai fait tout ça il y a plus de 27 ans. et je ne l'ai jamais regretté. Quelle joie! Quelle joie de savoir que le jour où je devrais quitter cette terre, je me retrouverai immédiatement dans la présence de Dieu pour l'éternité. Au cours de cette émission, Régent nous a donné tous les détails du plan de Dieu pour recevoir le pardon de nos péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Et je souhaite à tous nos auditeurs qui n'ont pas encore reçu ce beau cadeau de faire ce pas aujourd'hui, pendant qu'il en est encore temps. Régent a dit aujourd'hui que c'est en venant à Jésus-Christ qu'on découvre la vraie joie. Et c'est donc vrai. Il y a plusieurs années, j'ai entendu un prédicateur dire qu'on peut avoir beaucoup de plaisir sans toutefois avoir du bonheur, sans connaître la joie. Je me souviens, avant de connaître Dieu personnellement, j'avais constamment besoin de faire la fête. Et je suis allé jusqu'à faire de gros abus d'alcool, à consommer toutes sortes de drogues, et j'avais du plaisir, mais j'étais malheureuse. Mais un jour, quelqu'un m'a parlé de Jésus, et j'ai finalement compris qu'il était le seul qui pouvait réjouir mon cœur. J'ai compris qu'il avait donné sa vie sur la croix pour moi, personnellement. J'ai avoué que j'étais une pécheresse perdue, puisque Paul nous dit dans son épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23, que tous ont péché. Puis, j'ai réalisé que j'avais désespérément besoin du cadeau que Jésus m'offrait, c'est-à-dire le pardon de mes péchés et l'assurance de la vie éternelle, en plaçant ma confiance en lui seul. J'ai compris que je ne pouvais pas gagner mon ciel, puisqu'avant de mourir sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Jésus m'a offert le ciel pour l'éternité. Il me l'a offert gratuitement. Et je me suis repenti. J'ai vu l'horreur de tous les péchés que j'avais commis dans ma vie. Et j'ai dit, « Seigneur, sauve-moi !» Et soudain, mon chagrin et ma détresse se sont transformés en joie inexprimable. Je venais de recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Oh, mon ami, en ce moment, Jésus t'offre le même cadeau que j'ai reçu. Il a payé le prix. Il a payé ton entrée dans le ciel en entier. Et en ce moment, il frappe à ta porte. Si tu entends sa voix à travers la mienne, ne résiste pas. Tu ne sais pas si tu vas vivre demain. Repens-toi. Change de direction à l'égard du péché. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Demande-lui maintenant. Jésus a les bras ouverts. Il t'aime. Il veut te sauver. Il veut que tu lui appartiennes.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Régent?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors, je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.